bonjour tout le monde. Enfin, spectaculaire commence, émission numéro 181. Mercredi 12-12-18, mercredi 12 décembre 2018, Christophe Rollin au micro, Gérald est dans la place. Ouais, Gérald est présent, super, magnifique, il est de retour, c'est une excellente chose. Et nous avons également un invité, Benjamin Larderet, pour l'exposition Charbon, photographie de Benjamin Larderet, qui se tient à la bibliothèque du 1er arrondissement, La Condition des Soies, au 7 rue Saint-Polycarpe. Ça a commencé le 4 décembre de la semaine dernière, c'est jusqu'au 19 janvier, le samedi 19 janvier 2019. Il y aura une petite relâche pour les fêtes de fin d'année, mais voilà, c'est ouvert sur les horaires de la bibliothèque, à savoir 10h midi, 13h, 19h. C'est très bien, c'est très intéressant, c'est sûr, pourrais-je vous lire un tout petit texte, photographe documentaire, Benjamin Larderet, spécialisé sur l'environnement, je m'attache, dit-il, à parler de grands enjeux liés à l'écologie en France et en Europe. La narration positive suscite de plus en plus mon intérêt en tant qu'outil d'implication sur le dérèglement climatique, le constat étant fait que être informé ne suffit pas pour se mobiliser. Benjamin donc est présent avec nous pour parler de cette exposition jusqu'à la fin de l'émission et également parler de lui-même. C'est jusqu'à 15h comme tous les mercredis. C'est sur le 102.2 de la bande FM à Lyon et sur également radiocanu.org si vous nous écoutez sur internet. C'est une très bonne chose. Bref, commençons avec de la musique. Commençons avec Dominique A pour un super titre. Merci à Gérald. Rendez-nous la lumière et c'est très bien. Nous commençons de cette manière et ensuite c'est Benjamin jusqu'à 15h comme d'habitude. Il n'y aura pas aujourd'hui de blues des canuts, mais on va quand même faire l'émission jusqu'à 15h. Ah bah peut-être qu'on pourrait dépasser. Vous verrez. Dominica pour commencer.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges. Et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché.
Chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Canus 102.2. Nous venons d'écouter l'inénarrable Dominica, rendez-nous la beauté, plutôt rendez-nous la lumière, c'est un peu la même chose, un synonyme. Extrait de l'album Vers les lueurs, avec une fin d'album d'ailleurs, avec la chanson Par les lueurs, qui paraît-il pour les fans de Dominica est une des chansons préférées de son auteur. Tout ça pour introduire notre nouvel invité du jour, monsieur Benjamin Larderet, photographe, documentariste, ethnologue, militant, qui expose actuellement à la Bibliothèque du Premier Conditions des Soies, un nouveau reportage d'actualité, puisqu'il est consacré à l'extraction du charbon. On est en plein COP24 qui se tient actuellement à Katowice, en Pologne.
Et les photos sont réalisées.
Et les photos ont été réalisées, entre autres, à Katowice, mais aussi en Allemagne, à Hambach. Il va nous parler de tout ça, mais d'abord un petit portrait, comme d'habitude.
Et puis on le salue alors.
Oui, bonjour.
Bonjour,
merci d'être venu.
Bonjour Benjamin Larderet.
Voilà.
Très bien, Gérald, j'allais dire Pascal Gérald l'a indiqué. Un petit portrait, une petite biographie, je ne sais pas. Alors ça pourrait être intéressant, un portrait chromatique, un goût pour la lumière. Benjamin, je vous en prie, comment vous présentez? Par quel...
Alors moi je me définis comme photographe documentariste, c'est-à-dire que je documente le réel. Et oula.
Tout va fonctionner.
Le micro.
Attention. Mon Dieu, il s'est décroché, mais ça.
Ouais, c'est bon, ça roule. Voilà.
Ça va aller.
Et donc voilà, ce que je cherche à transcrire dans mes images, c'est de l'information avant de l'esthétisme en fait. Et je me suis spécialisé sur l'environnement en 2015. J'ai arrêté de prendre l'avion à cette période-là pour être à peu près raccord avec mes idées quoi.
Quel était le chiffre que vous donniez sur le site? C'est 5000 quoi. Pourquoi faire 5000 km avec un bilan carbone catastrophique?
Voilà, bah c'est dans l'idée c'est travailler local quoi. C'est on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour parler d'enjeux qui semblent importants. Donc je pense qu'on a tout sous la main pour pouvoir raconter des histoires qui sont importantes quoi.
À quel bout du monde êtes-vous allé? Inde, Kurdistan, je crois, c'est ça?
Ouais, j'ai fait pas mal d'allers-retours en Turquie entre 2005 et 2011, au Kurdistan notamment. L'Inde, c'était mon dernier voyage en avion, effectivement. Ouais. J'ai commencé voilà mes grands voyages au Mexique aussi, au Chiapas.
Et toujours avec des photos à la clé, enfin du moins.
C'est mon médium est vraiment la photographie. Aujourd'hui, j'élargis un petit peu au texte aussi. J'écris des articles pour accompagner les images également. Mais c'est avant tout la photographie qui me porte, bien sûr. Ouais.
Je crois que c'est sorti mercredi de la semaine dernière. Astérix et le secret de la potion magique. Comment êtes-vous, Obélix, Benjamin Larderet, comment êtes-vous tombé dans la photographie? Qu'est-ce qui s'est produit dans la petite enfance ou un peu plus tard, adolescence ou même encore plus récemment? Enfin, il y a un truc, c'est ancien.
Comme beaucoup de personnes, je pense que c'est une rencontre. Hein. J'ai rencontré un photographe qui s'appelle Hervé Nègre, qui habite à Mâcon, qui m'a fait connaître son travail et où je me suis dit, effectivement, et c'est ça que je veux faire. Et après, bah, j'ai.
Ça se passe comment? C'est du jour au lendemain ou c'est sur une période de.
Ça remonte quand même à quelques années. Hein. C'était il y a bien 15 ans, donc c'est peut-être un petit peu flou dans ma mémoire, mais toujours est-il que voilà, la manière de travailler, je pense aussi que j'avais pas les mêmes objectifs à l'époque que j'ai aujourd'hui.
Objectif, on parle de but, c'est ça?
On parle de photographie. J'étais assez jeune quand je me suis décidé, j'étais au lycée. Donc après c'était aussi à cette époque-là on se pose beaucoup la question de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, qu'est-ce qui nous porte, etc. Voilà, je me suis attaché à ça. Ça aurait pu être autre chose, hein. J'aurais pu être récemment, je me suis dit que j'aurais peut-être pu être géographe aussi, que j'aurais peut-être pu faire d'autres choses, mais voilà, il se trouve que c'était la photographie et que j'ai pris le pli quoi. Après voilà, je me suis un petit peu acharné pour rester dans ce milieu-là parce que c'est pas évident tous les jours d'avoir une activité régulière sur le sujet, mais voilà, ça aurait pu être autre chose, mais je suis resté là-dessus finalement.
Vous avez fait des études au préalable scientifique?
Non, pas du tout. J'ai fait des études assez courtes en fait. Hein. J'ai fait un an de fac à Dijon. Après, j'ai fait une formation en photo à Paris où je suis resté 4 ans. Je suis parti de Paris parce que c'était trop grand, trop cher.
Invivable.
Ça me plaisait plus. Invivable, ouais. Vivre dans une cage à poules, merci quoi. Et puis après, bah, pendant plusieurs années, je me suis déplacé. J'ai vécu un peu à Bruxelles. J'ai fait plusieurs allers-retours en Turquie. Et je suis arrivé à Lyon en 2010, quelque chose comme ça. Ouais.
Et vous avez quel âge?
34 dans 3 jours.
Bon anniversaire en avance.
Vous nous disiez tout à l'heure hors antenne que c'est cette école que vous avez faite à Paris de photographie, c'est ça plus
précisément? Ouais, c'est ça. Ouais.
Que si ça avait été, si ça pouvait se refaire, vous ne referiez pas. Vous feriez autre chose.
Oui, autrement. Autrement peut-être, ouais, parce que je sais pas. Comment dire? Le fait, ouais, d'être dans un cadre d'école privée, alors que d'autres structures existent, que beaucoup de photographes sont formés sur le tas, voilà, c'est quelque chose dans lequel je me suis lancé en étant, voilà, assez jeune. Hein, j'ai terminé mes études à 21 ans, donc j'aurais peut-être plus pu prendre le temps de faire autre chose et d'étudier, je sais pas, d'autres domaines. Peut-être que ça m'aurait mené ailleurs. Après, voilà, je me plains pas d'où je suis aujourd'hui. Hein, je fais ce qui me plaît. Donc après, peut-être ça aurait été à refaire différemment, ça aurait été fait différemment. Après, toujours est-il que voilà, ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Donc en soi, ça va quand même.
Vous voyagez beaucoup, vous avez beaucoup voyagé, mais vous avez un QG à Lyon sur les pentes qui s'appelle L'Abat-Jour.
L'Abat-Jour, effectivement, ouais, on est trois à travailler là-bas. C'est une galerie photo atelier
associative.
Associative, effectivement. Ouais, ouais, ouais. On est deux photographes et un vidéaste à travailler là-bas. Et donc voilà, il y a un peu une émulsion, il y a un peu quelques personnes qui tournent autour, et voilà, donc il y a un petit peu des va-et-vient de photographes, d'autres personnes.
Émulsion photographique, émulation d'individus. Émulation, et vous réparez aussi,
voilà, un fort aspect technique.
Ouais, effectivement, je me suis mis il y a 2-3 ans à faire de la vente et de la réparation d'appareils photo argentiques. Pour moi, c'est une volonté aussi. Enfin, ce que je retrouve là-dedans, c'est la possibilité pour tout un chacun de se réapproprier la technique voilà, enfin, faire travailler les mains plutôt que prendre un petit peu de distance avec l'ordinateur et faire travailler un peu les mains aussi. C'est ça qui m'intéresse. C'est un modèle de travail qui permet de fonctionner un petit peu différemment. Et voilà, quand on est fatigué d'une chose, on peut basculer sur un autre système de travail qui permet de relayer d'autres choses, de faire appel à d'autres compétences et de finalement enrichir un peu son travail de tous les jours, quoi.
Intermétique, vous arrêtez de prendre l'avion pour être cohérent avec votre travail à militant, centré sur l'environnement, en termes éthiques aussi et techniques, à l'ère du tout image, de l'image jetable, du tout numérique. Est-ce que le fait de faire de l'argentique, vous faites aussi de l'argentique, vous réparez des photos argentiques, est-ce que c'est pas une manière de redonner un peu d'aura à l'image photographique, de manière un peu, pas réactionnaire, mais à revenir un peu à une force de la photo argentique?
Oui, effectivement, il y a plusieurs choses derrière. Il y a l'aspect de réappropriation de la technique, comme j'ai dit, effectivement, pouvoir. Quand on fait des photos avec un téléphone portable, ce qui est la norme aujourd'hui, on perd complètement de vue, en fait, le trajet de la lumière de l'appareil, la manière dont est construit l'appareil, etc. Et je pense que qu'on gagne beaucoup à se réapproprier ça. Et je pense que si, depuis une petite dizaine d'années, il y a pas mal de jeunes générations qui sont attirées par ce médium-là, qui n'ont pas connu ça auparavant et qui veulent le découvrir. Je pense qu'effectivement, il y a aussi cette volonté de redonner une valeur à l'image et d'être moins sur
l'accumulation,
la consommation du clic, quoi, on va dire.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et on retrouve l'instant, le kairos, l'instant propice.
Aussi, ouais, peut-être. Ouais. Moins dilué. Ouais, plus,
et puis au prix où sont les produits de développement et au prix des pellicules, on ne fait pas n'importe quoi.
C'est ça,
on travaille la photo et on déclenche au moment.
Et puis c'est aussi une manière de travailler où on est peut-être plus léger, c'est un matériel qui coûte moins cher, on est moins dépendant de sources d'électricité aussi. Donc c'est un retour aux sources, ça permet d'être un petit peu plus autonome aussi, peut-être un retour aux sources aussi.
Et à l'artisanat photographique.
Ouais, l'artisanat c'est quelque chose qui est arrivé assez tard dans ma démarche, hein, mais effectivement, ouais, enfin, travailler soi-même, enfin.
De manière totalement indépendante, sans dépendre de logiciels de traficage, d'images et tout ça.
Ouais, après, enfin, je photographie aussi beaucoup en numérique. C'est aussi un des médiums d'aujourd'hui. Et voilà, c'est élargir la palette, quoi. C'est se laisser la possibilité de pouvoir utiliser toute la palette de la photographie et pas être restreint à un domaine technique particulier, quoi.
Est-ce qu'il y a une force ou quelque chose qui n'y aurait pas dans l'argentique, quoi? qu'on trouve dans l'argentique, qu'on ne trouve plus dans le numérique, en termes de grain, de qualité
de l'émotion peut-être, en termes de qualité, le numérique est loin devant, c'est normal, il y a une évolution technologique qui s'est arrêtée il y a 15 ans en photographie argentique, donc en termes de qualité, la question n'est pas là, c'est plus en termes effectivement d'émotion, de rapport tactile à l'image peut-être aussi. Mmh. Ouais. Mmh.
Puis la voir apparaître dans le bain, c'est toujours aussi magique ça.
Ouais, c'est
la révélation qui porte si bien son nom.
Mais quand on est en labo, quand on fait du tirage, on est dans une autre dimension temporelle aussi. Hein. On est facilement immergé une demi-journée, une journée, et c'est un autre rapport au temps aussi. Ouais. Mm-hmm.
Cette galerie est-elle ouverte au public ? Vous parlez de tirage, vous ne réalisez pas de tirage pour le particulier ? Il n'y a pas de...
Oui, si, effectivement, à l'abat-jour, il y a un labo qui est ouvert à tout le monde.
Donc on peut vous porter une pellicule
pour le faire soi-même.
Une clé USB, enfin, quelque chose et vous demandez...
Alors on ne fait pas le travail de tirage qui est un travail de labo. On met à disposition cet espace-là, mais on n'a pas de service commercial de développement ou de tirage de la photo. Ouais.
C'est une association de l'an 1900, hein, y a pas de... c'est pas une entreprise de développement comme il y a d'autres. Il y en a encore à Lyon, deux grandes. On va pas leur faire de la publicité, quoique.
On peut s'adresser à vous tout de même. Est-ce que le tout venant. D'ailleurs, on n'a pas indiqué l'adresse, c'est à côté, hein, c'est à deux pas de.
L'abat-jour est au 33 rue Leno, ouais. Mais non, on n'a pas de service de développement sur place. Généralement, quand on nous pose la question, on renvoie sur d'autres structures que tu as pu évoquer qui font ça très bien.
Qui sourit.
Vous êtes ouvert au public, on peut rentrer chez vous. Quand les horaires, c'est un peu particulier sur le site. Quand on se connecte, c'est un peu. C'est ouvert au bon vouloir, ça a l'air, ou sur les horaires 15h, 15h30.
Comme c'est une galerie associative, il faut pouvoir tenir une permanence derrière, et qui dit tenir une permanence dit voilà, y consacrer du temps et libérer du temps pour ça tant qu'on ne peut pas consacrer à notre activité professionnelle en parallèle. Donc effectivement, le choix a été fait de restreindre un peu les horaires d'ouverture pour pouvoir nous laisser le temps de nous consacrer à notre activité quotidienne. Et donc effectivement, c'est ouvert essentiellement en fin de semaine, vendredi après-midi, samedi après-midi, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y a, Zachary qui tient la place, hein. Je m'occupe pas de la galerie, c'est Zachary qui le fait. On s'est rendu compte aussi que voilà, c'est peut-être ça, ces moments-là aussi qui a le plus de visites et que ça servait à rien d'ouvrir en parallèle.
Alors vous, le loyer, vous avez des subventions en tant qu'association, vous vous débrouillez pour le payer à plusieurs, comment vous faites?
Moi je loue un bureau sur place. Après c'est la popote interne de mon collègue.
Publication peut-être qu'on pourrait évoquer, puisque nous parlons bien entendu auditeurs, de l'exposition, d'ailleurs il faudrait que vous nous indiquiez, Benjamin, comment prononcer ce nom, Charbon ou Carbon, photographie de Benjamin Larderet du 4 décembre au 19 janvier 2019, qui se tient une exposition à la bibliothèque du 1er arrondissement, La Condition des Soies. Oui, charbon, carbone.
Alors, charbon, ouais, carbone, ouais, carbone en anglais.
Okay.
Alors, j'ai un problème avec mes titres parce que ils sont plus visuels qu'oraux, en fait. Plus visuels et graphiques qu'oraux et parlés. Donc, moi, je prononce ça charbon, effectivement, de manière simple. Après, voilà, c'est une thématique donnée sur un espace géographique européen. Donc, c'est les enjeux du charbon à l'échelle européenne, effectivement.
Donc, ça, c'est votre exposition dont on va parler dans quelques instants, mais voilà, peut-être une publication aussi, si on veut consulter de vos photos, c'est possible par le biais de cette publication du Conseil d'architecture et d'urbanisme de l'environnement, enfin même Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement, le CAUE, Carnet de territoire, le Beaujolais. Est-ce que vous pourriez, je ne sais pas, évoquer un petit peu, quoi que cette publication, il me semble qu'elle est épuisée. On peut la trouver à la bibliothèque, il y a plusieurs exemplaires, c'est intéressant. Là, pour le coup, du local, c'est hyper local. Hein. Il y a Tarare qui est évoqué, il y a quoi encore ?
L'Arbrel ?
Non, je n'ai pas vu l'Arbrel, j'ai vu Beaujeu, Villefranche-sur-Saône.
J'ai sillonné un peu tout le Beaujolais, effectivement.
Anse s'y trouve aussi.
C'était une commande de photographie paysagère pour le CAUE, qui grosso modo est une institution qui est là pour donner un peu des conseils aux élus pour pas qu'ils fassent n'importe quoi sur leur commune, quoi. Et donc, ils ont édité un carnet de territoire, ils ont fait appel à moi pour illustrer des grandes thématiques du Beaujolais, quoi. Et donc c'est une approche de la photographie paysagère qui m'intéresse parce que voilà, c'est toujours la même chose. Je cherchais l'information dans l'image, mais j'essayais de mettre d'organiser dans mes vues paysagères des éléments qui sont un peu clés, qui relèvent de tels enjeux dont ils avaient besoin de parler, en fait. Et donc il y a des questions d'urbanisation, d'agriculture,
de cadastre,
différents titres, de cadastre, ouais, de... on peut dire ça.
30 photographies en tout dans cette publication assez récente, hein, je crois, 2016, c'est ça. Donc les photos ont été réalisées
l'hiver précédent,
cette même année ou auparavant. Je suis en train de le feuilleter, là je tombe sur une partie 2.2, c'est pas 2.0, hein, enfin les pierres dorées, une mosaïque de paysages agricoles et naturels très habité. Il y avait aussi
pourri par les pesticides pour le Beaujolais au goût de banane.
Il y avait aussi la question de l'activité.
Il y en a qui prend sur les écosystèmes.
Ouais. L'attractivité, c'était où là? Comment reporter l'attractivité des villes sur les campagnes? Enfin, du moins, il y a plein de choses qui sont les hautes vallées du Beaujolais, les bourgs et petites villes de campagne. Il y a plein de choses.
Effectivement, ouais, c'est un ouvrage un petit peu technique qui permet de mettre en lumière un peu les grands enjeux de telle ou telle zone du Beaujolais.
Il y a aussi des sortes de maquettes plus ou moins à l'intérieur des schémas 3D. Je suis sur l'axe de projet développer l'attractivité de villes à la campagne. Les qualités patrimoniales et paysagères existantes, support de revitalisation des centres-bourgs. Il y a beaucoup de jargon, mais voilà, on trouve
c'est
de vos
très
photos.
Très technique, le
seuil. On trouve de vos photos, et notamment, il y en a une qui, que je trouve stupéfiante, avec un Leclerc qui est en arrière-plan. C'est pour le Val de Turdine, enjeu urbain et paysager à inclure dans les documents d'urbanisme. C'est étrange. Comment vous êtes entré chez un particulier, là, non?
Ah, il y avait une route qui passait, c'est un jardin en angle, donc j'étais pas chez le particulier, effectivement. Et la maison est au premier plan, mais une vieille pub sur la façade avec les Croix-Rousses, ça fait appel à je sais plus quoi, effectivement.
C'est très étrange, mais les couleurs sont automne, c'est ça, vous disiez, hiver 2015.
Effectivement, ouais, j'ai dû faire les photos en décembre ou janvier, donc on est sur des il y avait un petit peu de soleil quand même, donc c'était assez automnal, ouais, effectivement. Ouais.
Pour terminer peut-être votre présentation, tout à l'heure, Gérald, c'est chapeau, hein, je suis admiratif, tu as réussi à caser le terme de kairos, hein, puis ensuite une sorte de dichotomie entre artiste et artisan, c'était bien placé. Moi, je me demande peut-être votre définition, Benjamin, là, pour achever, comme ça, histoire de repartir sur 10 minutes de conversation. La photographie, hein, étymologiquement, c'est quoi? C'est la capture, l'écriture de la lumière, c'est ça? Et vous m'avez dit tout à l'heure hors antenne avoir une appétence, enfin du moins un goût pour, enfin une envie de, ben, précisément de capturer la lumière, c'est ça?
La lumière, la transcription de la couleur, effectivement. On a évoqué la photographie argentique, que je traite essentiellement en noir et blanc parce que c'est techniquement c'est ce que je peux faire moi-même, mais effectivement l'aspect coloriste de la photographie, exprimer des choses avec la palette de couleurs que nous apporte la lumière à des moments donnés, effectivement, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible, ouais, tout à fait.
Vous êtes même photosensible, donc c'est ça.
Et ça se voit dans l'exposition dont on va parler après pause musicale.
Nous y sommes, alors, quelle pause?
Analogique ou numérique, le son?
Herbalizer, j'ai le titre, je crois que c'est Namsaying featuring Jean Grey, et puis sinon, donc, c'est le Herbalizer, et sinon, j'ai Flore de Luna, que vous m'avez remis tout à l'heure, le titre Acteal. Gerardo Gutiérrez Bernal, Mexique, ou bien c'est London, je crois, c'est ça, c'est Angleterre.
Take London, oui.
Herbalizer. Donc on fait ce que vous voulez, comme vous voulez. Que préférez-vous?
On part sur Acteal, ça permettra de parler un mot de...
Flore de Luna, alors?
Flore de Luna, ouais.
Mais très bien, il est 14h25, 26, voilà, nous sommes bien avec Benjamin, on est même d'ailleurs très bien, Gérald, avec Benjamin Larderet, en train de parler de cette exposition Charbon Carbone, photographie de Benjamin Larderet, exposition qui a commencé déjà la semaine dernière, c'était le mardi, je crois, 4 décembre, le vernissage jeudi, on a manqué ça, il paraît une belle foule, un bon moment. Donc là, ça a commencé la semaine dernière, mais, auditeurs, ne vous inquiétez pas, ça continue encore jusqu'au samedi 19 janvier 2019. Relâche un peu pendant la période des fêtes, mais quand même belle amplitude d'ouverture du mardi au samedi. Et 30 photographies dont tu pourras, Gérald, nous faire
plus précisément
un compte rendu. Alors tout d'abord, Flore de Luna, c'est l'artiste et le nom de l'album, hein, c'est ça aussi? C'est à la fois
Je crois que c'est plusieurs artistes différents.
Ah bah d'accord. Bon.
Il me semble.
On écoute et puis vous nous direz ensuite, Benjamin, ce qu'il en est plus précisément.
Promete. respuesta. El maizal te sonríe. Es una respuesta.
C'était le morceau Acteal de Flor de Luna, Gerardo Gutiérrez Bernal. En fait, Acteal, c'est un des deux villages qui était touché par des descentes militaires au Mexique, au Chiapas, justement. Mmh. Je parlais de mes voyages précédemment, où il y a eu des descentes de paramilitaires sur les communautés indiennes. Voilà, c'est juste ce morceau-là, me touche un petit peu à cœur par rapport à ça, parce que c'était le Chiapas, c'était un de mes premiers sujets de reportage à l'époque. Ça remonte à quelques temps déjà, mais une certaine affinité, voilà, avec ce morceau-là.
Et alors là, grosse actualité de cette exposition qui se trouve à la bibliothèque du 1er arrondissement, La Condition des Soies, photographie de Benjamin Larderet, Charbon, Carbone, du 4 décembre au 19 janvier. Grosse actualité parce que ça se, à la fois le moment où ça a lieu et puis là où vous avez réalisé ces photos, c'est en pleine.
Katowice.
Mais la COP, c'est quel numéro ? On en est à quoi là ?
24.
On est à 24. Déjà. 23.
Et se déroule actuellement même, est en train de capoter d'ailleurs. Katowice, la COP 24, et la 23 était à Bonn.
Et
justement.
La 23 était à Bonn aussi, dans un grand bassin minier de charbon en Allemagne. Donc l'Allemagne, 8e producteur mondial, la Pologne, le 9e. Et là, coup sur coup, en l'espace d'un an, on a ces deux événements-là qui sont situés dans les régions majeures du charbon en Europe. Donc c'était le moment ou jamais pour en parler, quoi.
Ouais. Donc l'expo, pour ceux qui ne connaissent pas le lieu d'exposition de La Condition des Soies, c'est une galerie très bien, avec des cimaises très bien éclairées. Il y a 3 panneaux à lire, très distingués, et 30 photos. L'expo peut se voir assez rapidement, hein, même si vous avez une demi-heure, on peut déjà.
Peut la prendre dans le sens.
C'est ça qui est intéressant, elle est concise, dense, pédagogique, et elle se regarde, on va dire, avec plaisir quand même. Bon, même si c'est assez monstrueux de voir, il y a beaucoup de mines à ciel ouvert. Donc 3 lieux, Anbar, à côté de Bonn.
C'est ça, l'Arenani. Il y a plusieurs mines, la mine de Hornbach, la mine de Garzweiler, un jet de pierre de Cologne et de Bonn, effectivement.
Ensuite, il y a Katowice, où se tient actuellement la COP24 à 20 km d'Auschwitz, dans la Silésie. Hein.
C'est ça, donc là, c'est pas des mines à ciel ouvert, c'est des mines dans lesquelles on descend. Et l'agglomération est ponctuée d'une douzaine de puits de mines qui marquent vraiment le paysage de l'endroit. Et c'est une des capitales de la Silésie, une des régions qui est vraiment liée au charbon, quoi. La région s'est construite avec l'industrialisation, le charbon, et les frontières ont été assez mouvantes historiquement par rapport à cette ressource.
Et là, on pense aux puits de Becher, ces fameuses séries en noir et blanc, de typologie, collection des puits, parce qu'on voit des puits.
C'est une belle inspiration. Effectivement, on voit ça, on en voit 1, 2, 3, 4, on voit un peu les points communs entre chaque. On se dit, effectivement, quand on est photographe, c'est une référence incontournable. Et quand on voit ça, on se sent un peu obligé de faire un hommage, effectivement.
Et la troisième série, donc c'est Turov qui est une mine en République tchèque.
La mine de Turov qui est en Pologne. Alors c'est à la rencontre des 3 frontières, voilà. Pologne, Allemagne et République tchèque. Et c'est une pointe de terre polonaise qui avance entre les deux autres pays, qui arrive à quelques centaines de mètres des autres frontières et qui impacte notamment 40 000 tchèques par rapport aux ressources en eau. Parce qu'il faut savoir qu'une mine comme ça creuse à 200 mètres de profondeur, et pour pas qu'elle se remplisse, ils pompent 300 litres à la minute. C'est un compteur que j'ai relevé sur un des tuyaux qui sort de la mine. Et donc, voilà, le niveau des nappes phréatiques est impacté à 20 km alentour.
Les lacs disparaissent.
Les lacs disparaissent. Le niveau d'eau dans les puits est descendu de 20 mètres en quelques dizaines d'années. Donc effectivement, c'est assez lourd. Et sans parler de la pollution de l'air.
Donc particules fines, il y a des statistiques qui peuvent montrer qu'il y a 10 000 morts prématurées en 2016.
Pour la mine de Tourov, typiquement, c'est 200 morts par an. C'est une estimation selon une modélisation mathématique. Ouais. Sur la Pologne, on est entre 5 et 10 000. À l'échelle européenne, on dépasse les 15-20 000, ouais, je pense. Ouais. C'est une ordre d'idée. Ouais.
Photo lumineuse, ciel très bleu, aucun nuage.
Très très difficile d'illustrer la pollution de l'air. Hein.
Surtout les particules fines.
Les particules fines, très fines. Ouais.
Donc le premier reportage, si on commence par là, il y a un ordre de lecture à indiquer de commencer par Charbon, la présentation générale de l'exposition et ce mouvement d'un groupe d'activistes de type zadiste, écologiste, altermondialiste, tout ce qu'on veut, qui s'appelle Ende Gelände. On pourrait traduire ça comment
Ende Gelände, je sais pas si c'est vraiment traduisible, ouais. Ça veut dire jusqu'au bout du terrain ou quelque chose comme ça. La traduction est très très mauvaise, mais moi, j'ai abandonné l'idée de la traduire. Hein, mais
ouais. Fin du dépaysage, moi je pensais.
Mais... Peut-être, ouais.
C'est la fin, oui.
Jusqu'au bout. On peut peut-être dire jusqu'au bout ou jusqu'à la fin, ou voilà. Je sais pas, ça peut s'approcher.
En entrant à gauche, donc dans cette bibliothèque, on l'a indiqué, celle du premier, elle se trouve à quoi 100 mètres des terreaux, quoi. Enfin, du moins,
oui, c'est très facile à trouver, tout le monde la connaît.
On monte la petite rue Saint-Polycarpe, et donc voilà, on. Il faut ensuite gravir également des marches d'escalier parce que c'est tout un bâtiment, cette condition des soies. Je crois qu'il y a les services et
tous les services d'une bibliothèque.
Municipale. Oui, non, mais il me semble qu'au rez-de-chaussée, je crois que c'est autre chose. Ce n'est pas encore la bibliothèque qui commence. Donc, au premier, quand on y accède, on entre à gauche. Donc, ça commence Ende Gelände avec donc, ces premières photos qui sont.
Et vous avez suivi là, les activistes justement de Ende Gelände.
J'étais avec eux effectivement.
En 2012.
C'était l'an dernier, c'était il y a un an, à quelques jours près. C'était la veille de la COP23. Il y a un coup médiatique qui a été lancé pour faire parler de ça. Et ils sont très très forts parce qu'en 3 jours ils réussissent à rassembler 2000 personnes, à les organiser pour descendre dans la mine, à bloquer la production l'espace d'une journée, à faire ressortir tout le monde et à partir. Et
sans aucune arrestation, il y a juste un type qui s'est fait écraser par un cheval.
Il y a eu quelques gardes à vue, peut-être une dizaine à tout casser, c'est même pas sûr cette fois-ci. Et effectivement, la police montée est arrivée, il y a eu des personnes, il y a eu un blessé effectivement qui s'est fait piétiner par un cheval. Ils ont voulu s'asseoir devant la ligne de flics pour éviter de les faire passer, d'aller plus loin, et le cheval a paniqué, il lui a marché sur le ventre, je crois, j'ai pas eu la suite de l'histoire, mais il a été évacué en civière, voilà, un blessé à déplorer effectivement.
Alors tout est extrêmement organisé puisque il y a des slogans, ils chantent sur l'air de l'Arlésienne. Nous étions 2000 copains ou 2000 copines.
Ouais, c'est ça. Ce matin, j'irai bloquer la mine avec 2000 copines.
Avec 2000 copains ou 2000 copines. Ta 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 ta.
Très bien. Tous de blanc.
Et puis il y a aussi un code, le code main levée, main fermée, les bras croisés.
Rassemblez-vous.
Il y a 2000 personnes, mais c'est pas un seul bloc, c'est divisé en cinq équipes à peu près, de 350 à 600 personnes. Et il y a un groupe bleu qui déclare une manifestation pour pouvoir s'approcher au plus près de la mine et qui sert de couverture aux autres
qui
descendent par différents points pour aller bloquer les excavatrices qui sont des machines immenses. Hein. C'est parmi les plus grosses machines qu'on construit, ça fait 200 mètres de long sur 100 mètres de haut, quoi. Ouais. C'est des roues à godets qui font 10-15 mètres de diamètre, c'est vraiment faramineux. Ouais. Et donc, l'enjeu, effectivement, c'est de rentrer en masse dedans pour arrêter la production, faire un coup médiatique. Tout le monde est en combinaison blanche, donc c'est un appel visuel très très fort. Ouais.
Avec des masques, ils ont des couvertures de survie.
Quelle revendication, c'est fermeture, c'est ça? Enfin, du moins.
Sortir du charbon, effectivement, la lutte antinucléaire a bien avancé en Allemagne. Et maintenant, pour eux, l'étape d'après, c'est le charbon. Ouais,
Et alors vous étiez présent et vous, c'est quoi le terme? Vous shootez, c'est ça?
Ouais, je photographie, je raconte l'histoire. En fait, je raconte l'histoire en photo. Et
c'était quoi le terme, Gérald, déjà, de la narration
positive?
Positive.
Ouais, j'y suis assez attaché parce que je pense effectivement il faut s'ouvrir des perspectives un peu positives dans notre imaginaire pour pas se suicider par rapport à toutes les nouvelles qu'on entend un peu trop régulièrement qui ont tendance à plomber le moral, quoi. Et donc je pense que c'est extrêmement important de construire quelque chose qui puisse nous porter vers un avenir qu'on puisse envisager, quoi.
Donc ça, c'est catastrophiste. pour 2 sous. Alors, est-ce que c'est la fin du monde dans 10 ans? On ne sait pas encore, mais vos photos, en tout cas, elles sont objectives, elles peuvent être très belles, elles ne sont pas voyeuristes, elles sont assez cliniques.
Attention, tu parles de beauté, vous n'êtes pas, on se le disait
tout à l'heure, l'esthétisme dans la photo.
Un peu hors antenne, Benjamin, vous n'êtes pas vraiment, enfin voilà, dans un aspect esthétisant, une esthétisation, un esthétisme, ça vous... Non, vous cherchez, vous l'avez déjà plusieurs fois dit depuis le début de cette émission, documenter le réel, c'est ça, montrer le réel.
Documenter le réel et effectivement apporter de l'information dans mes images. L'esthétisme vient après, quoi. Si en plus on peut faire une image qui soit
équilibrée,
structurée, ouais. Et qui permette au regard qui soit facile à regarder aussi pour une personne qui n'a pas forcément les codes de lecture d'image, etc. C'est un plus, bien sûr. Ouais.
J'ai en tête une photo, mais alors ça, c'est peut-être pour le deuxième mouvement de cette exposition. Là, quand on entre dans l'espace, au fond à gauche, un énorme bâtiment. Devant, il y a une sorte d'un combi, enfin du moins, une camionnette, quoi. C'est assez sec. Ce bâtiment, d'ailleurs, j'ai totalement oublié la légende.
C'est un chevalement. Donc là, c'est pas une mine à ciel ouvert. Il creuse profond. Donc il faut faire descendre. Il faut faire descendre les mineurs et remonter le charbon. Donc c'est une structure d'ascenseur géant. Alors, quelle taille ça fait, j'en ai aucune idée, mais quelques dizaines de mètres allègrement, quoi.
Ah oui, c'est très haut.
Et c'est posé au milieu du paysage. Ça fait un bloc qui est complètement démesuré et qui se voit de très très loin. Ouais.
Et alors ensuite, si on part sur la gauche, il y a ces nageurs, je ne sais pas comment les qualifier, non, ces manifestants qui sont en maillot de bain, c'est ça.
Nous sommes à la limite.
Effectivement, c'est Ende Gelände, c'est un mouvement allemand qui commence à faire tache d'huile dans les pays autour. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en République tchèque, ils ont repris un peu le modèle d'Ende Gelände, ça fait 2 ans qu'ils fonctionnent, ils ont réussi à leur tour à bloquer des mines, etc. Et cette année, c'était le premier camp climat en Pologne. Il n'y a pas eu de blocage, mais c'est aussi en train de prendre. Et donc, il y a sur cette technique de, voilà, on rassemble des gens pour faire un coup médiatique, bloquer la mine, mais faire pression par rapport aux investisseurs pour rendre l'investissement risqué, on va dire, quoi. C'est un peu un de leurs mots d'ordre. L'idée est reprise dans les pays autour et commence à faire un peu écho en République tchèque, en Pologne, donc dans tous les pays qui sont un peu partie prenante de la production de charbon, quoi.
Le problème, c'est que par exemple en Pologne, à plus forte raison en Pologne, la culture minière est très très forte. Ça nourrit beaucoup de gens, c'est un métier auquel les gens sont attachés. Et on ne peut pas, du jour au lendemain, mettre des milliers de gens au chômage et changer brutalement, on l'a vu avec la taxe carbone en France récemment. Et voilà, il y a un problème de transition, il faut donner du temps, de reconversion, aller vers des énergies renouvelables, etc.
C'est 80% de l'électricité, le charbon en Pologne.
Voilà.
Donc on ne peut pas l'écarter d'un revers de la main, d'autant plus qu'effectivement les figures des mineurs sont assez fortes. Il y a eu à la chute du bloc soviétique, ils ont eu un rôle aussi assez important à certains endroits en termes de contestataires, syndicats, etc.
En 81, il y a eu des morts, 9 morts, on voit le monument qui leur est dédié, les 9 croix.
À la mine Vujek, effectivement, à Katowice, tout à fait, c'est encore un lieu mémoriel, donc il y a des enjeux qui seront difficiles à faire bouger, je pense, effectivement.
Ouais. Ça a toujours été ça, dans les mines, on tirait dans le tas, il y a eu un documentaire sur les mines en France, dans les années, je sais pas, début du siècle, 1915-20, la garde mobile tirait à balles réelles dans les gens, ça faisait des trentaines, quarantaines de morts, quand ils avaient décidé de débrayer. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour dire à ceux qui se passionnent pour le charbon, qui n'est pas la lignite, en plus la lignite est un charbon de mauvaise qualité, qui demande beaucoup un impact écologique énorme, qui n'est pas du tout de qualité, donc ça impacte encore plus l'environnement. Donc lignite, houille, tout ça, c'est différent. Ceux qui s'intéressent et veulent creuser le sujet, il y a eu un reportage sur Arte, toujours plus 7.
C'est encore très bon.
Voilà, oui, j'ai pas fait exprès. Hein. Donc creuser le sujet. Donc c'est le charbon, moteur de la révolution industrielle. Le premier épisode est en 2 parties, 2 fois 1h30. Il est encore visible en ce moment et cette semaine va passer le 2e épisode. Et c'est passionnant parce qu'il remonte à la préhistoire, au Moyen-Âge, la première découverte des mines à ciel ouvert qu'on avait trouvé dans l'Antiquité, qui était déjà utilisé en Antiquité, qu'on a perdu un peu au Moyen-Âge, qu'on retrouve un peu après. Mm-hmm. Et toutes les conditions des premiers mineurs, en fait, dans des galeries étayées, hyper dangereuses.
Est-ce que tu conseillerais, Gérald, la lecture de Germinal, peut-être?
Ah bah aussi, non, bien sûr. Oui. Ouvrage fondamental.
Mais Benjamin, qu'est-ce qui vous a plus intéressé? Qu'est-ce qui vous a fait vous déplacer dans ce sujet, dans ce carbon, charbon, exposition à la bibliothèque du premier? Enfin, pourquoi vous êtes-vous... C'est un voyage qui remonte à, vous l'avez dit, un empile presque.
Oui, c'est ça, ouais, les premières photos ont été faites il y a un an.
Automne 2017.
Fin novembre 2017, ouais.
Pourquoi
ouais.
vous déplacez-vous à Katowice même, c'est ça? Et puis,
Katowice, Endegaland 2, c'était il y a un an. La deuxième série de photos ont été faites cet été. Mais c'est pas ma première expérience. Avec les mines, j'avais fait un autre reportage sur une mine d'or en Roumanie, où il y a très très sensible. C'était des grandes contestations. 10 000 personnes de la rue à Bucarest, une dizaine de villes touchées. Parce que voilà, c'est une mine d'or qui est exploitée depuis l'Antiquité, comme tu disais tout à l'heure. Et il reste quelques résidus d'or dans les parois de la mine. Et donc, ils ont décidé d'aller raser tout ça pour gratter encore ce qu'on pouvait gratter.
Avec le cyanure, je crois qu'il m'a
exactement. Et remplacer ça par un lac de cyanure. Et donc, le problème, c'est qu'ils ont déjà vécu ça en Roumanie. Ils savent ce que ça donne. Il y a déjà des régions qui ont été sinistrées comme ça pour aller gratter l'or qui restait et rendre un endroit complètement désert pollué au cyanure derrière. Mais sauf que là, la population a vraiment bougé derrière. Ils ont fait en sorte de faire pression sur le gouvernement pour empêcher ça, quoi. Pour l'instant, c'est en suspens. Ça n'a pas avancé aux dernières nouvelles. Mais
ralentit le processus.
Mais après, voilà, il y a des histoires de corruption derrière avec le gouvernement qui font qu'il y a des choses un peu sales qui sont sorties, qui fait que ça a ralenti le processus. Et la compagnie canadienne qui est derrière n'a toujours pas réussi à aller raser les montagnes en question, je crois.
Donc, vous dites, vous avez des antécédents, mais alors pourquoi cette fois-ci, pourquoi ce charbon carbone, enfin, pourquoi ces voyages derniers, c'est. Enfin, ça vous émeut. Enfin,
En fait, je me donne à un cadre d'action qui est thématique, l'environnement, qui est géographique, qui est. Pour l'instant, l'Europe, parce que comme je prends plus l'avion, c'est quand même plus facile. En bus, en stop, en train, tout ce qu'on peut, quoi. Tous les moyens sont bons. derrière ça, après, c'est effectivement voir par rapport à l'actualité, qu'est-ce qui sort, quels sont les gros enjeux, et puis après, méthodiquement, les traiter les uns après les autres. Et il se trouve que cette année, c'était le charbon. Ouais.
C'était anticipé sur cette COP 24
Je l'ai senti venir. Et puis, en fait, l'élément déclencheur, c'est une vidéo que j'ai vue d'Underground 2, ils descendent une ou deux fois par an dans les mines depuis 3-4 ans, peut-être un tout petit peu plus maintenant. Et c'était vraiment extraordinaire. Il y avait vraiment une énergie, un élan qui donnait vraiment envie de participer, quoi. Et c'est vraiment ça qui était l'élément déclencheur. Je me suis dit, je veux en être, je veux aller vivre ça et je veux descendre dans la mine et aller bloquer la production. Et c'était vraiment... C'est assez grisant sur place. Hein.
Et pourquoi pas un reportage sur le mouvement même, sur ces gens, parce que ce serait moins le sujet à savoir l'environnement que plutôt des portraits de personnes, mais parce que là aussi ça doit être génial, quoi. Enfin, du moins ça doit être extrêmement captivant et intéressant de voir 2000 personnes, c'est ça. Ça fait quand même du monde. Il doit y avoir, je suppose, quand même plusieurs types de personnes, milieux sociaux, origines, enfin du moins ça doit brasser vachement de monde, tout ça, enfin même peut-être plusieurs pays. Non, ils sont tous allemands, c'est vraiment
une très grande majorité d'allemands. Il y avait un bus d'Alternative à Lyon qui était monté, je suis redescendu avec eux. Il y avait des Tchèques, il y avait des Polonais probablement, il y avait des mecs qui étaient venus du Pays-Bas ou de Londres en vélo, enfin donc ça ressemble quand même ça fait un gros mix, mais c'est très bref, ça dure 3 jours.
Ça vous dirait faire un reportage sur des gens? Non, et vous, c'est davantage le sujet même, c'est ça, la question d'environnement,
c'est l'action des gens, en fait. C'est qu'est-ce que ces gens font, en fait. C'est parler d'eux à travers leurs actions, leur mode opératoire, et c'est leur engagement, en fait. Donc je suis pas un très grand portraitiste, il y a des personnes qui font ça très bien, mais pour raconter une histoire, j'ai besoin d'avoir des gens et qui font quelque chose, et après je m'inscris dedans. Ouais, ça c'est peut-être mon côté un peu géographe,
plus ou moins déformé, plus ou moins torturé. Alors c'est quand vous allez en Guyane, ou alors une bonne nouvelle, Bolsonaro, le Brésil de Bolsonaro a interdit à Total de forer dans l'estuaire de l'Amazone.
Effectivement, j'ai vu passer ça.
C'est la dernière bonne nouvelle sur l'environnement.
Greenpeace a communiqué ça, à fait. J'ai pas de perspective en Amérique du Sud ou de traverser l'océan dans l'immédiat. D'autres sujets qui peuvent m'intéresser, c'est par exemple la désertification en Espagne, le Sahara qui remonte, on dit, les terres arabes qui foutent le camp. Il y a ça, par exemple.
Il y a extrêmement près et puis très très récent les crues de la Saône. Vous l'exposez sur votre site. On l'a pas encore indiqué, ce site qui est.
Oui. On mettra en lien sur le site.
On fait le jeu de mots. Ah mais c'est déjà fait, bien entendu. Ce site est une mine. C'est une mine. BenjaminLarderet.com. BenjaminLarderet. LARDERET. Est-ce que j'ai bien indiqué toutes les lettres?
Oui, Benjamin Larderet, LARDERET, c'est compréhensible. Com,
et alors, il y a vraiment un paquet d'éléments. Là, par exemple, pour revenir peut-être allez, une ultime fois sur cette exposition, charbon, carbone à la bibliothèque du premier, j'ai la carte d'action de la mine de Anbar. L'entrée se fera par le sud. Cette main là qui tient la carte, c'est à qui est-elle? C'est pas la vôtre, vous pouvez pas faire une photo comme
non,
ça.
Non, pas du tout. C'est, enfin, je photographie pas mes mains quand je bosse. Et là, c'était la veille en fait, la veille de descendre de la mine. Il y avait un petit point, un petit voilà, la préparation. On distribue les cartes, on voit qui va avec qui, comment on s'organise. Et donc voilà, on distribue des cartes pour que tout le monde soit au fait.
Parce que cette photo est à la fois, elle se trouve sur le blog, c'était sur le reportage qui s'appelait précisément Ende Gelände, sauter sur la mine pour sauver le climat, et vous avez intégré ce reportage à l'ensemble de ces panneaux de l'exposition.
Effectivement, ouais, j'ai intégré ce reportage là, cette exposition là, et j'ai également apporté un article qui permet de donner un déroulé un peu précis de la journée, qui permet de sentir l'ambiance de manière différente. Ouais, effectivement.
Et alors ces crues de la Saône, ça c'est très récent, non?
Oui, d'autant plus qu'il y a eu les crues de la Saône il y a peut-être un an, c'était en janvier je crois, et c'est pas en ligne, mais j'ai photographié les sécheresses aussi entre le lac d'Annecy et Morteau, on va dire, le long de la frontière suisse, sur une demi-douzaine de sites, des lacs de retenue.
Dans le Doubs, dans le Jura.
Dans le Doubs, ouais, ouais. Le lit du Doubs qui est à sec, qui est complètement à sec fin octobre, entre sur une vingtaine de kilomètres.
Pendant qu'il faisait 40 degrés en Laponie,
hyper
le Doubs était à sec.
Moi, ça m'a vraiment mis en état de choc dans certains cas, ouais. Et je suis quand même tombé sur un climato-sceptique, les pieds dans la caillasse, dans le lit du Doubs, quoi, tu vois. Il y croyait pas. Non, il croyait pas que c'était l'homme.
Qui va la poser, Gérald, cette question?
Moi
qui s'en charge.
Je sens que tu vas poser une question que j'avais envie de poser.
Ah, mais je t'en prie, allez, vas-y.
Je pense que c'est la même. Revenons en France.
Ah non, c'était pas tant.
Moi, c'était la taxe carbone, c'était les gilets jaunes, c'était tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire en France?
C'était plus général, voilà.
Sur la transition.
Quoi que ça peut être lié.
Comment ça a été négocié?
Votre volonté, c'est que voulez-vous faire, quoi? Qu'espérez-vous obtenir à travers ces photos?
Que pouvons-nous espérer?
Que pouvons-nous espérer? Ça, c'est. Enfin, on parlait de narration positive tout à l'heure. Effectivement, je pense que. Il faut réussir à construire quelque chose qui puisse donner envie, dans lequel on puisse se projeter. Mais enfin, j'ai pas de réponse toute faite, c'est compliqué.
Il faut que ça passe par une forme de parti politique, non, une association. Enfin, c'est un engagement. Enfin, il faut.
Le problème, c'est qu'on a vu ce qu'ont donné les partis politiques. On a commencé par les partis écologistes. Qui sont venus comme les autres.
Il n'y en a pas un pour récupérer l'autre, ouais.
C'est ça, et c'est pour ça qu'il y a aussi ce courant populaire qui ne sont pas forcément contre la transition écologique.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Cette phrase que vous.
Le fameux fin du mois, fin du monde.
Fin du mois, fin du monde, effectivement, même combat.
C'est ça, mais de toute façon, ce sont les mêmes gens. Ils font les mêmes profits sur l'hôtel.
Mais alors, que faire? Moi, je reviens encore là-dessus. Être informé ne suffit pas pour se mobiliser, parce que voilà, c'est quand même ça le principal. C'est vous cherchez à informer. L'information dans la photographie, dans le réel, l'information du réel, mais vous, ce que vous chercheriez en fait votre finalité totale, ce serait une forme de mobilisation, enfin du moins d'engagement des gens, mais ça c'est vous pouvez pas l'assurer vous-même, enfin vous tentez de donner les moyens ou les éléments, vous
je suis qui
avec le climato-sceptique, ça s'est passé comment
j'ai coupé court parce que j'allais m'énerver en fait.
Le type qui doute, quoi. Mais non, ça n'existe pas. L'anthropocène n'existe pas, c'est ça?
Exactement, c'était très bien résumé.
Mais oui, enfin, comment chercher cette mobilisation? Ce que je vous propose peut-être, c'est une nouvelle pause musicale, puisqu'on s'est dit tout à l'heure, là, peut-être qu'on va pouvoir dépasser, hein, Pascal n'est pas là pour le blues des canuts. J'ai remis deux pistes dans la machine. J'ai mis du REM, et j'ai placé également, donc j'ai Lotus de l'album c'est lequel est Up, je crois, Up, il me semble, et puis sinon j'ai Bigger You Come de Magnetic, To Be and To Have. Que préférez-vous? Que préférez-vous? On est à fond dans l'anglophone, mais on a commencé avec Dominica, donc c'est très bien. On a notre quota de que souhaitez-vous? Sinon pour Orange Blossom sera plus tard. Et puis voilà, comme
c'est
ça.
C'est parti
après,
pour Magnetic, ouais.
Magnetic, ben très bien. Donc ce deuxième titre, c'est sur l'album To Be and To Have, c'est voilà Bigger You Come. Et puis ensuite fin d'émission, il nous restera encore quelques minutes. On dépassera peut-être sur 3 heures pour évoquer une finalité, enfin votre volonté, votre projet, peut-être y a-t-il un projet.
Et puis d'ailleurs les projets à venir.
Voilà, les prochains projets aussi techniquement. Gérald, on va avoir le temps aujourd'hui, on pourra poser cette question après avoir entendu Benjamin. Qui êtes-vous? C'est très bien. Que faites-vous actuellement? Vous exposez jusqu'au 19 janvier. Je me suis trompé, attention, il y a vachement de temps, on est le 12. Ce n'est pas jusqu'à
voir l'expo prochain, plusieurs fois.
C'est jusqu'à samedi 19 janvier, donc ça fait quand même vachement de temps, ça fait plus d'un mois. Exposition Charbon Carbone, des photographies que vous avez réalisées l'année dernière. dernière, puis pas seulement, vous dites l'été dernier aussi.
Ouais, cette année de manière générale, ouais, de voyage.
Donc on a posé cette question aussi, que faites-vous? Et on va même pouvoir demander qu'allez-vous faire prochainement et puis qu'aimeriez-vous faire, quelle est votre grande ambition dans la vie. 14h50, un peu plus de minutes, voilà, de toute façon on s'en fiche, il n'y a pas de blues. Ouais, si, ça donne peut-être un coup de blues, là, tout ce que vous évoquez. Allez, écoutons Bigger You Come de Magnetic.
C'était l'album Too Beyond to Have de Magnetic, Bigger You Come.
Pourquoi ce titre, Benjamin Larderet? C'est comme ça.
Voilà. Un pur hasard, effectivement. C'est dès que tu as dans ta discothèque depuis trop longtemps et qu'il tourne bien, tu sais pas d'où il est sorti et finalement il est toujours là.
Parce que à l'opposé, vos photos, c'est quand même réfléchi. C'est quand vous appuyez sur le non pas, vous l'avez dit tout à l'heure, non pas sur le téléphone portable, vous n'avez pas de photo au téléphone portable. Quand vous appuyez sur le, c'est quoi le terme technique, sur le déclencheur,
sur le bouton,
c'est réfléchi. Il y a un vrai, il y a une idée, il y a une intuition, il y a une sensibilité. Vous savez que ça va.
Il y a la documentation. Il y a beaucoup de documentation en amont, et c'est et en général, effectivement, c'est le résultat d'un travail de préparation. Mais c'est pas la fin, parce qu'après il y a encore tout un travail de post-production, d'édition, un peu comme sur le, on monte un reportage comme on monte un film en fait quelque part.
Est-ce qu'on peut les, Gérald, tu posais cette question hors antenne, est-ce qu'on peut les acquérir ces clichés, vous les mettez en vente vos photos, ça peut se faire, on peut, ouais.
Ouais, tout à fait, ouais, c'est possible. Je vis de la photographie, c'est pas toujours évident, donc si quelqu'un veut acquérir mes photos, c'est tout à fait possible. Après c'est pas quelque chose avec lequel je suis très très à l'aise, parce qu'il y a des sujets qui ne s'y prêtent pas forcément. Sur le documentaire, techniquement, c'est pas un secteur, un thème qui se vend très bien en tirage. C'est pas le on est tangent avec le marché de l'art, et c'est quelque chose avec lequel je suis un petit peu dérangé en fait. Dans l'exposition, voilà, il y a une photo d'un mec sur le civière, je me vois pas la vendre pour qu'elle soit affichée dans un salon, tu vois. Vous voyez. Donc j'ai fait relativement peu d'expositions jusqu'à présent comparé à d'autres collègues qui s'expriment de manière un peu différente, mais ma priorité est pas de vendre des tirages, quoi. C'est vraiment de diffuser cette information là. Après je fais un petit peu attention aussi à la manière dont je suis pas très à l'aise quand les gens de voir mes photos chez quelqu'un d'autre en fait. Quand on m'achète des tirages, de voir cette photo que t'as produite qui est chez quelqu'un d'autre et qui est appropriée dans un autre contexte, c'est toujours quelque chose d'un petit peu délicat à appréhender pour moi, hein.
Vivre du malheur des autres est un rude métier.
Auditeur, si vous souhaitez voir les photos pour l'instant de Benjamin Larderet sans les acquérir, c'est tout à fait possible. L'exposition Charbon Carbone, le H est entre parenthèses, photographie de Benjamin Larderet, 4 décembre, ça commençait déjà la semaine dernière, c'est du 4 décembre au 19 janvier 2019, le samedi 19 janvier. Des photographies donc liées à cette COP24, mais plus précisément liées à ce problème, hein, je ne sais pas comment nommer ça, cette catastrophe écologique de l'extraction, l'excavation.
Une de plus.
Du charbon.
L'extractivisme, effectivement.
Dans ces régions, Allemagne-Pologne. Donc, ça, c'est l'expo. On en a beaucoup parlé, auditeurs. Vous pourrez la réécouter. À 15h01, il est temps maintenant, fin d'émission, puisqu'on déborde un peu. Oui, vous n'écoutez pas sur Radio Canu le blues des Canus. Relâche cette semaine, relâche également la semaine prochaine. Donc, vous retrouverez Pascal peut-être fin décembre ou alors courant janvier. Nous aussi, hein, on fait relâche, non pas le mercredi 19, mais on fera relâche les 26 décembre et 2 janvier. On se reverra le 9. Donc, avant cela. Benjamin Larderet, est-ce qu'il y a des projets à venir prochainement, peut-être des choses plus locales et plus simples que cette vaste question que je lançais avant cette pause musicale sur quel projet politique auriez-vous, quel projet, je ne sais pas, éthique, mais éthique c'est quoi, avec le H ou sans le H, ou les deux, le projet moral, non, bref, prochainement peut-être publication des photos de la sécheresse du Doubs éventuellement, non. Ou je ne sais pas,
pas de publication prévue dans l'immédiat, mais ça va venir, j'espère. Mais effectivement, il y a quelque chose qui coule depuis quelques temps. Ça fait 10 ans que je fais du documentaire. J'ai voulu faire un petit peu autre chose et je me suis lancé dans une fiction.
C'est sur le site.
Librement adapté de la cavale de Khaled Kelkal, le terroriste responsable des attaques dans le RERC à Paris en 95. Membre du GIA, premier attentat islamiste en France, peut-être, si je ne me trompe pas.
Et une figure un peu locale.
Un peu locale, effectivement. Il a grandi à Vaux-en-Velin, il était de Vaux-en-Velin, et quand ça a commencé à chauffer pour lui, il est parti dans les Monts du Lyonnais pendant quelques semaines. Il s'est fait débusquer par un cueilleur de champignons, la police est arrivée, il y a eu un échange de tirs, il a réussi à s'échapper, il y a eu une chasse à l'homme de 3 jours qui s'est soldée par sa mort, un arrêt de bus dans le village de Vaugneray.
Et sur quel département c'est le Rhône encore,
c'est le Rhône, c'est à moins d'une heure de Lyon, c'est à 30 km à l'ouest, effectivement, donc c'est vraiment dans le coin, ouais. Et donc voilà, bah c'est une fiction, c'est-à-dire que je prends un peu mes distances avec cette histoire-là, mais je me l'approprie un petit peu et j'essaye de raconter une histoire d'un homme un peu en fuite, d'un mec en cavale dans les bois, dans les côtés un peu très dramatique, assez un peu enfermant, mais c'est
avec des figurants. Dans un esprit roman photo quasiment.
Un petit peu roman photo, ouais, effectivement, mais sans figurant. Non, c'est il y a personne, il y a que moi, et c'est vu à travers ses yeux, et de temps en temps je me mets en scène pour rythmer un peu.
Et dans les vrais lieux, où s'est déroulée l'action, comme ouais. Une forme d'itinérance mémorielle.
C'est ça, ouais, dans les bois, dans la forêt où s'est déroulée l'action, mais en laissant libre cours à mon imagination, quoi. J'essaie de pas trop coller à l'histoire et de pouvoir.
Il y aura une part d'imaginaire et de.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais.
De fiction. Oui, mais, alors pour l'instant, c'est une publication web. C'est sur votre site benjaminlarderet.com. Très bien fait, très ergonomique, quoi. Tout en haut, hein, les différents titres, un peu, les différents chapitres, ou je ne sais pas comment nommer ça, les différentes parties de votre site. Et là, il y a cette partie qui s'appelle YZ. C'est entre
YZ, effectivement, pour la fin de l'histoire. C'est la fin de l'alphabet, c'est la fin de l'histoire. C'est aussi les deux premières lettres d'Iseron, le village où se passe une partie de l'histoire, effectivement.
Donc une fiction photographique.
Qui ne sera pas exposée, par contre.
Publié au printemps.
Édité.
Oui.
Ou dans un lieu.
À domicile, à l'abat-jour, dans un premier temps.
D'accord. Ah. Et ben. On en reparlera peut-être.
Avec plaisir. Venir.
Il faudra prendre un rendez-vous. Oui, c'est très bien.
Il est 15h05, chers auditrices, chers auditeurs.
Tu as une.
Moi, j'ai. Puisqu'on Gérald. Parle de local, et il faudra que je parle d'un collège dans le 3e arrondissement où des familles sont sans toit, où des élèves qu'on oblige à être scolarisés dans un collège dorment dehors. Mais un collectif solidaire d'enseignants et d'équipes et d'associations de parents d'élèves se cotise. Ils dorment dans le gymnase. Et on attend la presse et on attend que ça bouge puisque les élus, les responsables,
ils se renvoient la balle.
Qui ont à s'occuper de ça, se renvoient la balle. Et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose à part des enseignants qui dorment sur place et des banderoles que vous pourrez lire dans le 3e à côté de la prison Montluc.
Comment avoir des renseignements ? Veux-tu nommer ce collège ? Est-ce qu'on l'indique plus précisément ? Est-ce que
non, la presse l'a dit, collège Gilbert Drus, ça s'appelle.
La presse l'a couvert ou pas encore ? Si.
Ben non, on attend, mais pas assez, pas assez.
Il y a eu un petit encart.
Oui, il y a eu un article dont peut-être le Progrès. Mais de toute façon,
il y a un lien Facebook,
une sorte de pourrissement qui s'installe là. Il faudrait que les choses changent. Il fait très très froid.
Ah, ça commence. À
les conditions de sécurité, passe. D'hygiène sont pas forcément idéales dans un gymnase, dans un collège. Et puis il y a un enfant qui doit être en bas âge de 7 mois, je crois. Voilà, donc.
Tu me coupes mon annonce, moi je souhaitais.
C'est pas grave, il fallait
de l'opéra.
Dire.
Non, mais très bien, tu as tout à fait raison. Mais alors après, comprends-moi, hein, c'est quand même compliqué d'annoncer Rodelinda, l'opéra de Georges Friedrich Händel. Amour passionnel, deuil impossible et rivalité sentimentale sont au cœur de ce chef-d'œuvre qui promet un spectacle de Noël exceptionnel. C'est le spectacle de fin d'année de l'opéra de Lyon. Voilà, vous l'attendiez, il est arrivé. Il commence le 15 décembre, c'est-à-dire ce vendredi. Non, c'est même samedi 15 décembre, jusqu'au 1er janvier 2019. C'est les horaires. Attention, c'est un spectacle. Un peu long, un peu plus de 3 heures. On l'évoque parce qu'il est question que mercredi prochain revienne Stefano Montanari, chef d'orchestre qui était déjà passé en juillet dernier. C'est pas certain non plus, donc on verra ce qu'on fera la semaine prochaine. Sinon, à l'opéra, à l'orchestre de Lyon, il y a certainement plein de choses. TNP également et Célestin, il y a des choses aussi, mais je sais plus, j'ai perdu le fil.
Il y a toujours plein de choses
Dark,
partout.
Si, il y a un truc au théâtre de la Croix-Rousse. Rappelle-toi, Dark quoi c'était le...
Ah oui.
Dark Matter, Dark Circus. Non, c'est pas ça.
Ouais. Cirque noir avec des animateurs qui vont faire de l'animation en temps réel, l'écran de sable, etc. Il paraît que c'est fascinant. Allez à la Croix-Rousse. Faudrait qu'on y aille aussi, d'ailleurs.
Ben, moi, j'ai prévu.
Ah ben, moi aussi, il faudrait que j'y aille.
Pour finir, générique de fin d'émission. Nous n'écoutons pas notre corps habituel, mais plutôt, merci Benjamin. C'est Orange Blossom, Everything Must Change. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ça c'est bien. Tout doit changer.
C'est bien pour finir l'émission.
C'est très très bien. Le titre Habibi pour clore, voilà. Donc, merci pour cette programmation, Benjamin. Et puis, merci également à vous.
Merci pour
ce travail.
Merci
pour cette expo. C'est très intéressant.
Cette dose d'espoir.
On se revoit
anti-catastrophiste.
Pour YZ, vous avez une date pour ça ? Ou c'est deuxième partie d'année, premier semestre ?
Printemps, mais 2019. Quelque chose comme ça.
Ah ouais. Bah très bien. Vous reviendrez. On va passer toutes les fins d'émission à dire... vous reviendrez. Merci tout le monde. Programme bande continue à venir. Donc pas de blues des cagnes aujourd'hui. On n'arrête pas le prog à 17h. Mayday, émission numéro 10, 11 peut-être, à 19h, à 18h et puis à 19h, le canu info habituel. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute des bandes continues. Et puis voilà. Merci beaucoup.
Ciao, ciao.
Ciao tout le monde. Et puis Orange Blossom pour terminer. Alors, Alors j'annonce un disque qui en fait ne débarque pas, mais mon Dieu, que s'est-il passé? Pourtant je l'ai bien inséré, il devrait démarrer, il devrait partir. Everything Must Change, c'était formidable ça.
Il n'y avait pas eu de problème technique. Mais
il n'y avait pas eu d'impair, mais là c'est pas ma faute, c'est la platine qui ne veut pas marcher, mon Dieu, mais pourquoi ça ne marche pas? Non, mais non, on va pas mettre le générique parce qu'en plus le générique il est viré également. Non, on va trouver, je vais meubler, je vous en prie. Au revoir les amis, vous pouvez disposer, moi je vais bien trouver à exclure ce CD, comme ça va être très très bien. Si, il faut l'écouter. Il faut écouter ce Orange Blossom. Qu'est-ce que j'en ai fait, mon Dieu? Où est-il passé? Oui, non, ça c'est R.E.M. C'est pas R.E.M. qu'il faut écouter. Où est-il? Je l'avais sous les yeux. Je l'avais. Ah, mais en fait, je crois que c'est. Mais non. Il est passé où? Ah, il est peut-être ici. Ah, Bibi. Ouais, non, mais tu sais quoi? On ne t'entend pas, Gérald. Orange Blossom pour terminer. Au revoir tout le monde. Salut.